D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Il y a des gens pour qui la nuit, nuit. Il y a des gens pour qui la nuit, lui. Il y a des gens qui jugent le jour court, il y a des gens qui jugent le jour sourd. Dans cet éternel ping-pong moraliste, la nuit perd souvent. Elle est minoritaire. Et, comme elle est minoritaire, elle résiste. Si la nuit est souvent mal aimée, ses amants sont d'une fidélité que rien ne diminue. Pour moi, la nuit est le territoire de l'imagination. On y voit des gens qu'on n'y voit jamais le jour, même si on se camoufle beaucoup plus facilement le jour que la nuit, contrairement à ce qu'on croit souvent. La clarté engendre une diminution de l'attention. La lumière fait qu'on se méfie moins. Le jour est le territoire de la banalité traversée de folies violentes. Et les folies ont besoin de la violence pour s'y faire voir. Le jour, l'esprit pratique, ce grand ennemi de l'imagination, triomphe. L'argent, la voracité, l'ambition n'ont pas de limite. Le jour est beaucoup plus propice à l'illusion que la nuit. C'est le jour que Donald Trump a été élu. C'est le jour qu'il continue à faire campagne en organisant des meetings auprès de ses partisans pour continuer à leur faire des promesses, tentant de les maintenir dans un rêve éveillé, ce qui est peut-être une définition de la dictature. La nuit, les voraces se reposent. Il en reste bien quelques-uns, des voyous, mais des voyous classiques, ceux qui veulent nous voler, nous violer, nous vendre de la drogue. Après eux, ce ne sont qu'insomniaques, fêtards ou écrivains qui, comme moi, écrivent. À 2h du matin, il me semble toujours que cette unique fenêtre allumée là-bas de l'autre côté de la cour est celle d'un frère. Il y a un romantisme de la nuit, un classicisme du jour. Le jour, c'est la clarté et son idéologie. La nuit, les mystères et la leur. Est-ce tellement sûr? Voici ce qu'écrit Hölderlin dans son poème à la nuit. « Du monde où des fous la folie raille, s'agitant autour de fantômes creux, chez vous se réfugie qui, du vain monde, n'aime pas le flot brillant, non, mais la seule vertu. » Voici donc la vertu assignée à la nuit, elle à qui on ne prête d'habitude que des vices. Cet autre romantique qu'était Victor Hugo écrit dans Les Misérables, « L'obscurité est vertigineuse, il faut à l'homme de la clarté, quand l'œil voit noir, l'esprit voit trouble. » Les travailleurs de la nuit que sont les écrivains ont pour ancêtre un grammairien latin du IIe siècle, Olugel. Il a écrit un livre dont le titre me charme depuis toujours, « Nuit attique ». Nuit attique, comme c'est beau, et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien tout simplement qu'il l'a écrit à Athènes la nuit. Ce livre est l'encyclopédie de son savoir en littérature, en art, en histoire, en médecine, en géographie, etc., etc. Ayant eu la chance de vivre avant le triomphe de l'Église chrétienne, il n'a pas connu sa haine de la nuit. Jusqu'à une réforme de 1955, dans les rites catholiques, il a existé un office des ténèbres. Il se donnait les 3 derniers jours de la semaine sainte et devait finir après le coucher du soleil. On y célébrait ce que l'Église appelle la passion du Christ, c'est-à-dire ses souffrances. Donner le nom de passion à des souffrances. On éteignait des cierges en chantant des psaumes, miserere et autres airs réconfortants. On écoutait les lamentations de Jérémie où, avec une ostentation un peu espagnole, ce prophète se plaignait de ce que Jérusalem eût été détruite à cause de ses transgressions qui sont toujours, toujours celles du plaisir. Mais aujourd'hui, quel est le secret professionnel de la nuit? Je reçois pour en parler Michael Fessel qui publie chez Autrement « La nuit, vivre sans témoin ». Michael Fessel, j'ai dit d'où je parlais, préférant plutôt la nuit. Pouvez-vous me dire, vous, si vous êtes plutôt du jour ou de la nuit?
Le choix de ce thème pour ce dernier livre montre que je suis plutôt de la nuit, mais je suis, ou j'essaie du moins, d'appartenir à la nuit de telle sorte qu'elle ne soit pas simplement la révocation du jour ou son opposition. Vous avez fait référence dans votre introduction très justement au romantisme. Il y a une lecture aussi romantique de la nuit qui la valorise contre le jour. Et ce qui m'intéresse, moi, dans la nuit, c'est plutôt la puissance de variation qu'elle incarne. Et cette capacité qu'ont les hommes de faire en sorte qu'il soit minuit à midi, c'est-à-dire qu'au fond, la nuit, c'est aussi un peu une obscurité choisie, une obscurité consentie, et que l'on peut la faire paraître parfois même en plein soleil.
Alors je voudrais qu'on parle d'abord des aspects pratiques de la nuit qui sont très importants, et ce qu'elle modifie quasiment physiquement en nous. Vous en parlez dans votre livre. La première chose, c'est la vision. La nuit, on ne regarde pas de la même façon. Elle altère nos manières de voir, écrivez-vous. Et donc de regarder ?
Certainement, elle nous permet en tout cas de réorienter notre regard vers ce qui, de jour, paraît inaperçu. Et pas si inaperçu, c'est-à-dire ce qui, d'une certaine manière, est vu sans ne plus être regardé. Et il me semble qu'on a, on a évidemment l'idée, et d'ailleurs l'expérience, que la nuit, nous y voyons moins bien. Mais cette altération dans la vision, c'est aussi une manière de laisser aux autres sens leur pouvoir de révélation, et je pense en particulier à l'ouïe, ou au toucher aussi, mais l'ouïe est peut-être ce qu'il y a de plus spectaculaire. Que se passe-t-il la nuit ? Eh bien, les sons deviennent des événements, les sons deviennent quasiment des, même dans une dramaturgie, des terreurs, parce que nous ne voyons pas ce qui les produit, et comme nous ne voyons pas leur cause, eh bien, c'est une place aussi pour l'imaginaire.
Restons un peu sur la vision. Vous dites on n'a pas de certitude des formes. En réalité, est-ce qu'on voit, vous dites on voit moins bien ou on voit différemment ?
Je dirais que la condition pour voir différemment, c'est peut-être d'abord de voir moins bien, c'est-à-dire de deviner. Voir moins bien voulant dire ici, voir de manière un peu moins claire, un peu moins distincte que de jour. Et puis surtout, interpréter différemment ce que l'on voit, parce que ce que nous voyons en plein jour, nous le voyons aussi à l'aune d'un certain nombre de nos attentes ou de nos catégories, ou plutôt d'ailleurs de nos a priori, voir une personne jeune, une personne âgée, voir quelqu'un de beau, voir quelqu'un de moins beau, voir une couleur vive ou une couleur plus opaque. Je dirais que cette manière d'interpréter ce que nous voyons à l'aune de nos catégories, elle est par définition remise en cause dans la nuit, où la vision est aussi propice à un certain nombre de surprises. Parce que, au fond, ce qui la distingue, je crois, la vision nocturne de la vision diurne, c'est qu'elle est beaucoup plus imprévue, hein, au sens littéral de ce terme. C'est-à-dire que lorsque quelque chose survient dans notre paysage nocturne, nous ne le voyons pas arriver, littéralement, nous ne le prévoyons pas. Et de ce point de vue-là, nous sommes sous le régime de la surprise, qui n'est d'ailleurs pas toujours bonne. Il y a évidemment des surprises terrifiantes dans la nuit, au moment où nous découvrons ce qui nous fait face.
Mais quand vous dites qu'on ne prévoit pas, dans la mesure où on sait qu'on ne prévoit pas, on prévoit quand même un peu, puisqu'on s'attend à cette surprise.
On s'attend à cette surprise, et cette attente, on l'appelle en général vigilance, hein, l'une des catégories ou l'un des termes qui vient le plus souvent dans la nuit, c'est que la nuit, nous sommes plus vigilants, nous sommes plus sur nos gardes, comme on le dit. Alors évidemment, il y a deux manières d'interpréter cette vigilance, et peut-être d'ailleurs elle sépare ceux qui aiment la nuit et ceux qui la fuient. La première consiste à dire que la vigilance, c'est justement le calcul, c'est la prévision, faire attention à tout ce que l'on fait, au moindre de nos gestes. Alors cette vigilance-là, si on l'adopte de nuit, certainement que l'on reste chez soi. Et puis, il y a une manière d'être sur ses gardes ou d'être dans une forme de vigilance qui me semble plus proche de la veille, de l'accueil de ce qui peut être nouveau. Je pense que la langue en a gardé la trace, d'ailleurs. On est sur ses gardes la nuit, mais on a aussi cette idée que la nuit nous tient en garde nous-mêmes, je dirais, nous protège en quelque sorte, et c'est pour cela que je crois qu'elle est un espace de liberté aussi.
Vous faites une remarque intéressante en disant que le regard du jour est plutôt porté vers le bas, alors que le regard de la nuit, on porte plutôt le regard à la verticale des corps, justement par méfiance ou pour essayer de mieux voir. Et ça change complètement les choses.
Ça change complètement les choses, en particulier pour cette expérience de la nuit qui est celle du ciel étoilé, qui nous met face à une transcendance, en tout cas une hauteur, que nous pouvons pour le coup contempler, parce que la caractéristique du soleil, c'est que nous ne pouvons pas le voir en face. Hein. Comme la mort, je crois, disait La Rochefoucauld, le soleil ne se laisse pas regarder en face. Donc comme dans la nuit, nous sommes en général dans une certaine opacité relativement à ce qui nous entoure horizontalement, je dirais, la tentation, toutefois quand c'est possible, hein, c'est-à-dire probablement plus beaucoup dans les villes ou dans les nuits urbaines aujourd'hui du fait de la pollution ou des lumières artificielles, mais quand c'est possible, la tendance est de regarder vers le haut, c'est-à-dire vers une source de lumière, celle des étoiles, lorsqu'il y en a, ou de la lune, une source de lumière qui se laisse contempler, ce qui est la grande différence effectivement avec le soleil. Cela étant, même dans la nuit urbaine, même dans la nuit dont on peut regretter qu'elle ne soit plus la nuit du ciel étoilé, il y a un rapport, je dirais, à l'horizontalité, ou un rapport en tout cas aux lumières, différent que celui que nous voyons dans le jour, tout simplement, parce que c'est peut-être ça, au fond, ce qu'il y a de spécifiquement nocturne, la lumière ne vient plus seulement de nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas le sentiment que c'est notre regard qui organise les choses en fonction de notre intérêt, de la manière dont nous avons de nous rapporter aux choses et aux autres. Mais il y a le sentiment que la lumière vient d'ailleurs, que la lumière, que ce soit celle, pour le coup, des étoiles ou celle du réverbère, ici, cela importe peut-être peu, eh bien, cette lumière, c'est la nuit qui nous l'offre. Et c'est elle qui, même si elle est tamisée, même si elle est beaucoup moins frappante que celle du jour ou du soleil, c'est elle qui nous oriente plutôt que notre regard ou notre conscience.
Alors d'une certaine façon, en ville, la nuit n'est pas la nuit ou n'est pas une nuit absolue. Et ce qui change, vous venez de le dire, Michael Fessel, c'est évidemment l'éclairage urbain, qui est une chose relativement récente. Paul Léoto, dans son journal intime au début du XXe siècle, se plaignait beaucoup de l'arrivée de l'éclairage urbain en regrettant les grandes masses tragiques des bâtiments de Paris, etc. Pour moi, je trouve que c'était très beau, ces éclairages urbains de Paris. Et d'ailleurs, ils ont diminué depuis Anne Hidalgo, qui a baissé l'éclairage public, que je trouve devenu assez sinistre. Paris est éclairé comme une figue maintenant. Mais vous, j'ai plutôt l'impression que vous êtes assez opposé aux lumières blanches de nuit qui existaient dans Paris.
Alors, je suis opposé aux lumières blanches qui ne sont justement pas les lumières artificielles en général, parce que l'éclairage urbain, de même que tout ce qu'on appelle lumière artificielle, dès lors qu'elles peuvent s'éteindre, dès lors qu'elles surgissent dans la nuit, dès lors qu'elles ne sont pas des lumières éternelles et blanchâtres, me paraissent tout à fait liées à la nuit. D'ailleurs, la première lumière artificielle dans l'histoire, c'est le feu. Et d'une certaine manière, il y a un rapport entre la nuit, le feu, l'incendie. En revanche, la lumière blanche, et là je vous rejoindrai, parce que en réalité, quand on dit que l'éclairage urbain a baissé pour des raisons qui peuvent se comprendre en termes, disons, d'écologie, on lui a substitué une lumière de néon, une lumière blanche qui est peut-être moins consommatrice en énergie nucléaire, mais qui est d'abord assez laide, et puis surtout qui n'est pas une lumière qui témoignerait de quelque chose comme de la trace du jour dans la nuit, donc qui ne fait pas alternance, qui ne fait pas altération même entre ces deux termes, mais une lumière qui n'existe nulle part en réalité. Souvent on dit que le jour colonise la nuit, que les lumières du jour s'emparent de la nuit, par exemple dans la nuit nocturne que vous avez, urbaine que vous avez évoquée. En réalité, je crois que c'est un espace totalement artificiel que celui des néons, et qui a une caractéristique d'ailleurs, c'est qu'il ne s'éteint jamais. C'est-à-dire que c'est la même lumière, un peu blanche, blafarde, sans ombre, que l'on va retrouver, qu'il soit midi ou minuit, dans un open space, dans un parking ou dans une salle d'aéroport.
Alors en même temps, sauf erreur, vous n'en parlez pas dans votre livre, cet éclairage et l'éclairage nocturne est aussi une chose qui protège. Les éclairages ont été créés aussi pour la sécurité des citoyens, comme on dit.
Les premières formes d'éclairage qui ont lieu à partir du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, effectivement, ont une fonction, disons, à la fois de protection et d'hygiène même nocturne. On trouve ça on en trouve un témoignage, par exemple, dans les nuits parisiennes de Rétif de la Bretonne, qui raconte que justement, ou qui explique plutôt que la nuit devient un espace habitable à partir du moment où, à ce moment-là, sous la forme de lampes à pétrole, essentiellement, on a pu l'éclairer. Il y a une fonction, certainement, d'apprivoiser, de domestiquer la nuit, une finalité de domestiquer la nuit dans ces éclairages nocturnes, mais il me semble aussi que c'est une manière de l'investir, de faire qu'elle devienne un espace habitable. Il y a eu aussi tout un travail dans la modernité pour rendre la nuit plus habitable, c'est-à-dire moins terrifiante, pour la domestiquer peut-être, mais aussi pour la vider de ses démons en quelque sorte, qui donne lieu à des expériences tout à fait inédites et dont d'ailleurs Rétif de la Bretonne témoigne lorsque pour la première fois on découvre ces mondes un peu interlopes que sont les mondes de la nuit, des ivrognes, des filles perdues, le monde du carnaval, etc.
Alors pour quitter un instant la vision, vous évoquiez tout à l'heure Louis. Dans votre livre, vous parlez de Hitchcock et de la façon dont dans des ambiances nocturnes, il utilise les sons pour terrifier. Et ça a l'air un peu d'un cliché tout ça, parce qu'il m'est revenu pas ce que vous dites, mais ce que fait Hitchcock et ce que font les cinéastes en général. Il y a un exemple assez rare qui est celui de film de Martin Scorsese qui s'appelle After Hours et qui se passe la nuit et où tout se passe mal, mais tout se passe mal de manière comique. Et ce que je veux dire par là, et la question que je veux vous poser, est-ce qu'on ne prend pas un peu trop au tragique le territoire de la nuit ?
Il y a certainement une tendance, y compris la mienne, sans doute, à voir dans la nuit une forme de dramaturgie, sinon même de tragédie, parce que c'est l'espace, c'est pour ça qu'Hitchcock, d'ailleurs, l'évoque, c'est l'espace où, du fait même de l'obscurité, peut surgir la terreur à chaque instant, hein, puis le fait que nous ne voyons pas les choses arriver, et donc qu'elles nous surprennent. Alors, cette surprise, effectivement, on peut la comprendre aussi sur le mode du comique. La nuit, d'une certaine manière, peut-être au-delà de l'alternative comique-tragique, c'est un espace qui est propice, et un temps, qui est propice à des formes de maladresse, à des formes des rapports à son propre corps, qui sont des rapports moins ordonnés, ou des rapports où le corps est un peu décontenancé par l'obscurité d'une part, et puis par le fait d'être toujours en alerte par rapport à ce que l'on entend ou ce que l'on touche. Il y a effectivement, là je vous rejoins, pas de raison a priori de décider que la nuit soit dévolue au malheur. Je le pense d'autant moins d'ailleurs que l'une des grandes figures, il n'y a pas que l'insomniaque, l'une des grandes figures de l'habitant de la nuit, c'est le noctambule qui va y chercher en principe des occasions de fête et de joie plutôt que de terreur.
Alors un autre sens qui est très concerné, quoique peut-être indirectement par la nuit, c'est le toucher. Après tout, on organise même des nuits dans la nuit, dans certains lieux, pour décupler le sens du toucher, ça s'appelle des backrooms. Qu'est-ce que ça devient le toucher pendant la nuit ?
Bien, le toucher, il tâtonne, je dirais, c'est son essence, mais là, évidemment, quand il est associé l'absence de la vision, le toucher prend, et c'est le cas dans les lieux que vous évoquez, le toucher prend la fonction de nous révéler ce à quoi nous sommes confrontés, et donc aussi une fonction, je dirais, liée au désir. Mais je ne vois pas la différence de nature, si vous voulez, entre l'oreille et le toucher ici, hein, sinon, évidemment, qu'il est plus dévolu à la sexualité, en ce sens que le point commun, quand même, fondamental, c'est que nous sommes confrontés à des corps, en l'occurrence, qui échappent à nos prévisions. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on se laisse aller, on lâche les amarres, y compris dans ce qui concerne notre désir le plus intime, pour ce que nous découvrons sans le voir, et d'une certaine manière aussi dans une certaine forme de liberté de ce point de vue.
Nous allons maintenant entendre Because the Night par Patti Smith. Elle a été écrite par Patti Smith et Bruce Springsteen en 1978 et se trouve sur l'album Easter.
In our bed until the morning comes.
Michael Fessel, après avoir, dans la première partie de ce secret professionnel, parlé plutôt du physique de la nuit, je voudrais qu'on s'attarde là un peu plus sur sa morale. De quand date la première prise de conscience littéraire de la nuit?
Alors, la nuit urbaine, la nuit habitée, la nuit, je dirais, investie aussi par des formes d'existence un petit peu anarchique ou anarchisante, cela date, alors je ne peux pas dire que c'est récif de la Bretonne nécessairement, mais cela date indéniablement du moment où la nuit commence à être un peu éclairée, donc des lumières ou du XVIIIe siècle. Maintenant, des textes littéraires consacrés à la nuit, ou en tout cas où la nuit joue un rôle fondamental, d'une certaine manière, ça naît avec la littérature. Chez Hésiode, déjà, il y a cette idée que ou plutôt d'ailleurs cette croyance, selon laquelle la nuit est originaire, que c'est depuis la nuit que le jour, ou que le jour est un descendant de la nuit. Alors évidemment, là, on n'est plus face à la question de savoir si à la nuit habitée ou à la nuit inhabitée, mais à la nuit comme ténèbres, comme origine, et on retrouve d'ailleurs cela même au début de la Genèse, où il est noté que les ténèbres, ténèbres, avant la création du monde, régnaient les ténèbres. Je dirais que il y a historiquement, dans la littérature et d'ailleurs aussi dans la philosophie, il y a un progressif, et dans l'humanité peut-être, progressivement un travail pour apprivoiser la nuit, pour la rendre habitable, par des lumières artificielles ou par des descriptions littéraires. Et ce travail, plutôt que d'être considéré comme une trahison de la nuit, qu'on confond souvent avec les ténèbres dans la tradition philosophique, il me semble qu'en réalité, il est aussi indissociable du fait que le temps humain n'est pas spécialement diurne, que le temps humain de la vie humaine, de la société humaine, est marqué par cette grande alternance entre le jour et la nuit, et que d'une certaine manière, nous pouvons jouer avec cette alternance, et que c'est ce qui caractérise certainement de manière particulière la liberté humaine.
Ce qu'il y a d'intéressant dans Les Nuits de Paris de Rétif, qui sont, sauf erreur, qui ont été publiés entre 1767, pardon, et 1787, c'est qu'il moralise la nuit, n'est-ce pas?
Oui.
Il voit et il regarde ce qu'il appelle le vice de la nuit. Vous allez nous expliquer peut-être qu'il veut ramener les filles de joie à la vertu. Il dénonce des criminels. Vous dites, il s'agit pour Rétif de réformer la nuit. Est-ce que c'est à lui ou à ce moment-là de la réflexion qu'on doit la moralisation de la nuit?
La nuit a toujours été un principe d'inquiétude. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, pour l'Église chrétienne, par exemple. Je rappelle, par exemple, que les individus jugés de petite moralité, c'est-à-dire les prostituées, les criminels, mais aussi les comédiens, il était stipulé jusque encore au XVIIIe siècle qu'elles devaient expressément être enterrées de nuit. Ça a été encore le cas de Molière, afin de ne pas laisser de traces. Donc le rapport à la nuit et du pouvoir à la nuit, je veux dire, est assez ambigu. Puisqu'à la fois, c'est de nuit qu'on mène les complots, c'est de nuit que le pouvoir, d'une certaine manière, se perpétue, et en même temps la nuit inquiète, parce que c'est là aussi où se jouent les révoltes et où se produisent des événements, où d'ailleurs apparaissent des personnages, des figures qui peuvent être déstabilisatrices.
Pardon, je vous interromps, mais en quoi est-ce que les complots et les renversements ont lieu la nuit? Toutes les révolutions ont eu lieu de jour,
Les complots, c'est ce qui précède la révolution. C'est le moment où on l'organise. C'est le moment où, précisément, en profitant de l'obscurité et du fait que le pouvoir est un peu moins présent et où nous sommes moins visibles, où s'organisent les choses.
Alors la nuit parfois revendique d'être contestation. Et d'ailleurs, elle ne réussit pas parce que ça se passe de jour. Il y a eu un mouvement de contestation récent qui s'est appelé Nuit Debout.
Effectivement, et Nuit Debout a tout à fait repris, à mon sens, en tous les cas, cette tradition de la contestation nocturne. On en trouvait déjà beaucoup de traces en mai 68, la contestation de Métro Boulot Dodo, parce que Nuit Debout le dit d'ailleurs très bien. Cela veut dire que on se refuse, ou que ceux qui participaient à cet événement se sont refusés au partage entre le jour et la nuit étant dévolue, disons, au sommeil ou même à l'amusement, et ont voulu politiser aussi la nuit, sortir un peu du cadre dans lequel sont un peu étroitement d'ailleurs contenus aujourd'hui nos débats politiques, pour montrer qu'il était possible de manifester un intérêt pour la politique au-delà des partages traditionnels entre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est public et ce qui est privé, entre ce qui est représenté et ce qui est du domaine de la vie individuelle. Et de ce point de vue, quoi qu'on pense quant au fond des choses, il me semble que s'emparer de la nuit comme d'un espace public, comme d'un espace de confrontation politique, constitue, quoi qu'il en soit, une dimension de la démocratie.
D'ailleurs, moi j'avais été très charmé, peut-être plus que ça, par les slogans dont ils avaient tatoué le sol de la place de la République, qui était très inventif et imaginatif. Il y en avait un en particulier qui est celui-ci, qui est « On ne rentre pas chez nous ce soir », qui était très bien, et qui veut dire que justement, il y avait une espèce de fusion du jour et de la nuit.
Et surtout un refus de faire de la nuit un espace purement privatif, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut tout aussi bien dormir que faire la fête, mais en tous les cas, dans lequel il n'y a plus rien de politique qui se passe. Et de ce point de vue-là, dans la formule même « nuit debout », le fait de ne pas vouloir rentrer, de ne pas vouloir se coucher, évidemment, il y a toute une métaphorique derrière, il y a l'idée d'occuper l'espace, la place de la République en l'occurrence, si on parle de la forme parisienne de « nuit debout », occuper l'espace, donc, mais aussi s'inscrire dans le temps et refuser que le temps soit scandé uniquement par des impératifs, je dirais, productivistes ou des impératifs de nature économique. Et en ce sens, il y a un lien tout à fait évident entre les expériences nocturnes et la possibilité de faire du temps humain autre chose que qu'une obligation, qu'une contrainte.
Michael Fessel, combien de pages fait votre livre ?
Je ne sais pas, 170 ou 180 peut-être.
Ça doit être ça. Eh bien, quand on vous lit, pendant 141 pages, on lit les commentaires sagaces d'un penseur qui donne des avis apparemment objectifs, ou en tout cas lui n'est pas, et tout d'un coup, page 142, comme par surprise, surgit un corps, et ce corps, ça a l'air d'être le vôtre, où vous parlez d'un endroit assez inattendu, qui est, je crois, la plus grande boîte techno de Berlin.
Et pour ceux qui n'y sont pas allés, il faut au moins dire que c'est un immense lieu qui est d'ailleurs initialement une fabrique d'électricité au style tout à fait stalinien. Donc c'est un lieu qui n'est pas attractif au sens où on peut se au premier regard en tous les cas, dont on imagine d'ailleurs que on imagine difficilement plutôt qu'il soit un lieu de fête, parce que il est disons non pas d'ailleurs d'une grande laideur, mais enfin c'est précisément d'ailleurs ça aussi l'intérêt de la nuit, c'est de détourner l'usage des choses, de permettre que les choses ici, la production d'électricité dans un pays de nature productiviste comme l'était l'Allemagne de l'Est, peut devenir un lieu de libération ou d'émancipation et de fait, et enfin, et c'est surtout cela d'ailleurs, le Berghain, du fait même de son architecture, c'est un lieu qui n'est pas seulement un lieu nocturne, c'est un lieu qui fait alterner le jour et la nuit, c'est un lieu dans lequel les lumières et les sons se rencontrent de telle sorte que finalement on vogue d'incendie, je dirais, en éclipse, et en ce sens il faisait paraître ce que j'essaie de montrer dans ce livre, il le fait très bien paraître, c'est-à-dire la possibilité, aussi le plaisir que l'on peut avoir à ce que le jour et la nuit deviennent l'objet d'un jeu plutôt que l'objet d'une contrainte dans lequel nos corps et nos vies seraient en prise.
Il n'est pas si contradictoire au fond, relativement à ce qu'il était. C'est une espèce d'usine de la nuit, non ?
C'est une usine de la nuit, mais bon, les critères par rapport auxquels on juge en général de ce genre de lieu, à mon avis, doivent être un peu déplacés. Évidemment, c'est un lieu commercial, comme la plupart des lieux qui nous entourent aujourd'hui. Mais ce que j'y ai perçu, en tous les cas, et ce que l'on peut y percevoir, c'est tout de même une déconnexion aussi par rapport aux impératifs de productivité. Il y a plusieurs formes, et de consommation surtout, il y a plusieurs formes de nuit festive. Celle de Paris, je dois le reconnaître, je dois l'admettre, et d'ailleurs le déplorer, c'est un petit peu, non seulement normalisé, mais surtout un petit peu calqué ou prolonge les impératifs de consommation qui nous traversent déjà le jour. Je dirais qu'un lieu de fête qui est un centre commercial, c'est assez déplorable. Bon, il se trouve qu'il y en a d'autres, hein, sans doute, mais je parle de celui-là parce que je le connais. À Berlin, en général, et au Berghain en particulier, la nuit est tout de même un art. Je dirais. Il y a un art de la nuit et il implique à la fois des créations, des activités, des techniques aussi, qui ne sont pas toutes dévolues à l'impératif de la consommation.
Pour finir, Michael Fessel, on a parlé de nuit debout, on a parlé de lieu de fête, on a parlé de vue qui se brouille et de toucher qui se modifie. Est-ce que vous direz que la nuit est le lieu du plus grand égalitarisme ?
Oui, elle est le lieu d'un plus grand égalitarisme pour une raison structurelle, je dirais. C'est que l'obscurité n'a pas de centre. Ce qui n'est pas le cas de la lumière, il n'a pas de point d'émission, je veux dire. Et ça rejoint d'ailleurs même un peu le Berghain. Si c'est un lieu de fête égalitaire, c'est aussi parce que la foule n'est pas comme cela rassemblée autour d'un centre qui serait occupé alors par le disjockey. Bon, ça pourrait être le chef, ça pourrait être la scène de théâtre, peu importe. L'obscurité, ou le clair-obscur plutôt, est égalitaire par principe, je dirais, du fait même qu'il est très difficile d'en occuper le centre et de ce point de vue-là, d'irradier, comme le fait le soleil d'ailleurs, sur les autres qui sont ramenés à la condition de sujet. Donc on retrouve cela en particulier, c'est un peu le fil conducteur de la réflexion que j'ai tentée là, dans cette remarquable formule de Jean-Pierre Léaud dans La Maman et la Putain, qui dit « Vous savez comment les gens sont beaux la nuit ?» Sous-entendu, ils sont tous beaux, peut-être parce que nous les voyons moins bien, mais en tous les cas parce que pour une fois, la beauté devient possiblement, je dirais, égalitaire.
Thank you.
C'était Secret professionnel, le 250e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des écrivains fils de cinéastes. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Amgral, prise de son Pierre Monteil, recherche INA Aude Vassan. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.